C-L-I-D.
En anglais, on dirait Understanding the Dark Side of the Universe.
Understanding the Dark Side of the Universe.
Euclide.
C'est une aventure humaine qui est unique, hein. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Ouais, il y a l'excitation de la découverte et puis d'amener sa contribution à toute une aventure humaine.
Euclide.
Quelque chose qui interpelle, quoi.
Mission Euclide.
Le métier à tisser l'univers.
À ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qu'il compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d'énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C'est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998. Et si on cherchait à en savoir plus ? L'Agence spatiale européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l'invisible, la mission Euclide. Euclide, c'est deux instruments ultra-performants, dont la plus grande caméra infrarouge jamais lancée dans l'espace, qui donnera des mesures d'une précision inégalée à ce jour, montée et testée ici, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euclide, c'est la coopération de plus de 220 laboratoires, dans 16 pays, pour plus de 6 ans de mission du satellite dans l'espace, et plus de 170 millions de gigaoctets de données à traiter. Euclide, c'est ici, et c'est là-bas. Décollage en 2022.
Alors William Gillard, vous êtes responsable de l'étalonnage et de la calibration du NISP. Que représente donc cette fonction ?
Donc, le NISP, c'est un spectrophotomètre infrarouge de l'observatoire spatial Euclide. La tâche d'être responsable calibration et étalonnage de l'instrument, donc on va avoir un instrument qui va aller dans l'espace, qui va observer de la lumière, qu'on appelle des particules de lumière qu'on appelle des photons. En passant dans l'instrument, ces photons ils vont subir un certain nombre de transformations. On reçoit de la lumière blanche des galaxies lointaines, par exemple, ou de la lumière un peu colorée. Une première étape, ce sera dans le spectromètre, ce sera de disperser de la lumière de ces photons, c'est-à-dire séparer les différentes couleurs. Ensuite, ces photons, cette lumière va arriver sur les détecteurs, sur des pixels, où ils vont être convertis en signal électrique. Et donc la calibration et l'étalonnage de l'instrument, c'est de mesurer, d'avoir une estimation de toutes ces transformations que subit cette lumière avant d'arriver au détecteur, parce qu'au final, ce qu'on mesure, c'est un signal électrique, une position en pixels, dans tout notre champ de vue, et il faut arriver à convertir ça en un nombre de photons, un flux de photons, un flux de lumière, et une position dans le ciel, ou alors, dans certains cas, c'est une longueur d'onde ou une certaine couleur bien précise.
Alors Julien Zoubian, vous êtes ingénieur de recherche en informatique, et donc vous travaillez particulièrement sur la partie code du NISP.
Oui, c'est ça. Du coup, mon travail principal, c'est sur le NISP, c'est d'aider William, du coup, pour implémenter un certain nombre de codes qui permettent de tester et de vérifier si l'instrument fonctionne comme on l'entend, et peut-être à plus long terme aussi de vérifier avec ces codes-là que la performance de l'instrument sera celle qu'on veut.
Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté instrumental. Cette partie, justement, de caractériser, calibrer un instrument, de bien connaître l'instrument pour pouvoir faire le mieux possible la science qu'on veut faire après, par la suite. Et bien sûr, après, c'est de continuer à travailler avec l'instrument pour faire les analyses de données scientifiques et étudier ce qu'est cette mystérieuse énergie noire. Alors jusqu'à à peu près cette année ou l'année dernière, c'était pour moi en tant que calibration scientist, peut-être aussi pour Julien en tant que support au calibration scientist, instrument scientist, on va dire, c'était assez calme. même si c'était il y avait des moments assez tendus, c'était assez calme parce que l'instrument n'était pas encore construit. On était plutôt dans une phase de préparation de tous ces tests de calibration sol, préparation de la calibration vol de l'instrument, de mettre tout ça en place, de faire les logiciels d'analyse. Mais on avait un peu de temps, on va dire. Alors que maintenant, l'instrument, il est fini d'intégrer. Il est à l'heure actuelle au lab dans ce qu'on appelle un cryostat. Donc c'est une grosse cocotte minute, on va dire, mais spéciale pour faire baisser la température, très très basse température, et pour mettre l'instrument sous vide. Et on va commencer des tests la semaine prochaine. Et là, c'est une période qui devient vraiment très tendue. Parce qu'il faut qu'on soit tous prêts pour faire ces tests. Et c'est toujours un moment très, très éprouvant pour les personnes qui travaillent sur ces tests. Parce qu'on va allumer l'instrument, on espère qu'il marche bien, mais il y a toujours, c'est la première fois qu'on va l'allumer, c'est la première fois qu'on va avoir 16 détecteurs qui vont marcher en même temps. Donc on peut avoir des surprises, et c'est à ce moment-là que ça devient très tendu.
C'est-à-dire très tendu? C'est-à-dire que là, vous comptez plus vos heures?
Comme on est très... moi, personnellement, je suis assez motivé pour que cet instrument fonctionne. Donc, je fais des heures supplémentaires que je compte pas. En fait, c'est des heures sur mon temps libre que je travaille sur l'instrument pour être prêt pour les tests qui vont venir.
Et alors là, cette phase de test que vous dites tendue, elle devrait se dérouler jusqu'à quand?
Alors, les tests, on va avoir deux scène tests qui vont venir. On va avoir donc une première test qui va commencer la semaine prochaine. On va allumer l'instrument à peu près la semaine prochaine. Ça va durer un mois. Ensuite, on a une période, une période de break. Et on recommence en janvier pour faire une période de test finale de l'instrument qui va à peu près pareil, durer une période de un mois et demi, pareil.
Donc c'est assez court finalement.
C'est assez court, mais l'instrument fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il faut qu'il y ait du personnel pour surveiller justement qu'il n'y ait pas de problème sur l'instrument, parce qu'en cas de problème sur l'instrument, donc l'instrument est conçu suffisamment bien pour se mettre en sécurité tout seul, mais on ne sait jamais, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui surveillent que tout se passe bien.
Comme disait William, on a envie que ça marche, du coup... On ne fait pas particulièrement attention du temps qu'on y passe, mais ce n'est pas forcément désagréable non plus. Surtout même si, moi c'est la première fois que je fais une phase d'essai, comme ce qu'expliquait William. Donc là, moi je suis plutôt assez excité et content que ça commence. Après, c'est la première fois que je fais, je vais peut-être le regretter dans quelques jours.
Quand vous dites vous allez peut-être le regretter, c'est-à-dire que ça peut être deux jours comme deux nuits aussi. Et ça peut aussi hanter vos nuits. C'est une phase où l'appareil est branché 24 heures sur 24, mais finalement vous aussi.
C'est stressant parce qu'on a un instrument qui on a passé énormément de temps à travailler sur cet instrument. On y a mis pendant les 4 dernières années, on y a mis toute notre énergie pour faire ces tests. Donc on veut que ça marche. Donc c'est surtout ça le côté stressant, mais il faut pas non plus qu'on se surcharge trop de travail nous-mêmes, parce que si après on n'est plus apte à faire fonctionner l'instrument ou à faire nos analyses, donc oui, on est assez raisonnable quand même. Il y a des réglementations qui sont mises en place pour justement faire ces roulements de personnes, et on passe pas plus de 8 heures chacun en tant que personne qui surveille l'instrument. Par contre, d'autres personnes ont certains rôles qui sont ce qu'on appelle des experts, qui sont présents en journée pendant les tests, qui sont là pour adapter les tests si nécessaire. Enfin, la présence, on n'est pas là non plus à se tuer au travail pour faire ces tests. Vraiment, ce qui est le côté stressant, c'est plutôt on a un instrument, on a investi beaucoup de temps à faire fonctionner cet instrument et on veut que ça se passe comme il faut.
Est-ce que vous êtes confiant sur ces tests qui arrivent?
Même si c'est stressant, je suis assez confiant.
Julien?
Ah bon, je suis 100% confiant, en tant que William est confiant.
Vous, Julien, qu'est-ce qui vous plaît dans votre implication sur la mission Euclid?
Un projet qui, au niveau informatique et code, enfin façon de coder, qui peut donner des choses assez intéressantes, parce qu'il va y avoir énormément de données à traiter, il va falloir avoir une très bonne maîtrise de l'instrument. Et du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu d'imaginer les façons dont on va gérer l'analyse de toutes ces données en distribuant des opérations un petit peu partout dans plusieurs pays. D'un point de vue programmation informatique, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce projet.
Alors William, pourriez-vous nous expliquer ce que signifie le redshift ?
Alors le redshift, déjà c'est un anglicisme qui, si je le traduis en français, c'est décalage vers le rouge. Et pour expliquer un peu ce redshift, il faut venir un peu à des fondamentales de physique. Donc la matière ordinaire, enfin l'univers, il est constitué essentiellement d'une matière, enfin d'un atome. Donc les atomes sont des petites particules qui composent la matière ordinaire, et l'un d'eux c'est l'hydrogène. Alors la particularité de cette matière, quand on prend individuellement chacun de ces atomes, si on excite ces atomes, par exemple qu'on les éclaire avec de la lumière, enfin une couleur très particulière, ces atomes vont passer dans un état qu'on appelle un état excité, et quand ils vont revenir à leur état de repos, à leur état fondamental, là où ils ont le moins d'énergie, ils vont émettre de l'énergie. Et cette énergie se fait par l'émission de lumière, qui a une couleur très particulière. D'accord ? Donc maintenant, si je reviens à ce décalage vers le rouge, on a plusieurs galaxies qui sont dans l'univers, qui sont, elles, composées essentiellement d'hydrogène. Et cet hydrogène, donc, il est excité par les étoiles de ces galaxies. Et en se désexcitant, il va émettre un photon, une lumière, d'une couleur bien particulière. Et à cause de l'expansion de l'univers, on a ce phénomène de décalage vers le rouge, c'est-à-dire que plus une galaxie va s'éloigner, plus la couleur de la lumière émise par ces atomes d'hydrogène va être décalée vers les hautes longueurs d'onde, donc vers la couleur rouge. C'est un peu le même phénomène que vous avez un peu quand vous écoutez une sirène de pompier qui passe à très grande vitesse à côté de vous. Vous entendez le son qui passe d'abord des aigus vers le grave. C'est ce qu'on appelle un effet de décalage Doppler. C'est exactement à peu près le même phénomène qu'on a pour le redshift. C'est un décalage Doppler qu'on appelle cosmologique, parce qu'il n'est pas dû à la vitesse, mais il est dû à l'expansion de l'univers. Et au lieu de changer un son, on change ici la couleur de la lumière qui vient de ces galaxies.
Et donc, qu'est-ce que va nous permettre de comprendre le redshift ?
Alors, le redshift nous permet... Bon, déjà, le redshift a permis de détecter, on va dire, l'expansion de l'univers quand Edwin Hubble a mesuré justement pour la première fois le décalage vers le rouge de certaines galaxies. Ce redshift nous permet de faire une cartographie tridimensionnelle des galaxies dans notre univers. Donc on a deux dimensions, c'est la position dans le ciel qu'on mesure en tant qu'angle, angle apparent, et on a une dernière position, c'est le redshift, qui est similaire à une distance en profondeur, mais qui est aussi liée au temps, parce que la lumière voyage à une vitesse finie dans l'univers. Donc quand on reçoit une image, quand une galaxie va émettre sa lumière, c'est comme si on prenait un instantané, une photographie instantanée de cette galaxie, et cette image se propage jusqu'à l'observateur. Et par contre, ce que l'observateur va voir, c'est justement l'image de cet instantané au moment où la galaxie a émis sa lumière. Donc il va observer la galaxie telle qu'elle était il y a très longtemps, quand elle a plusieurs milliards d'années, quand elle a émis la lumière. Donc à obtenir le redshift nous donne des informations sur la distance en profondeur, mais aussi sur quelle était la distribution de ces galaxies dans le passé de l'univers, et ce qui nous permet de remonter sur l'historique de l'évolution de l'univers et d'apporter des contraintes sur la composition de l'univers, et notamment des contraintes sur la matière noire et l'énergie noire, qui sont justement l'un des enjeux majeurs de la mission spatiale Euclide.
Le spectrographe NISP va fournir un redshift d'environ 30 millions de galaxies de raies d'émission sur la plage de redshift de 0,7 à 2 en environ 4000 secondes. Qu'est-ce que cela signifie ?
Il faut ramener ça au champ de vue du NISP. Donc le champ de vue du NISP, c'est à peu près la, le diamètre angulaire de la Lune. Donc quand on regarde le ciel la nuit, vous voyez la Lune. En une photo, une acquisition, l'instrument NISP va couvrir une région du ciel qui est aussi grande que la Lune telle qu'on la voit nous à l'œil nu le soir. Et donc sur une région du ciel comme ça, il y a à peu près il y a plusieurs milliers de galaxies que le NISP va pouvoir observer. Et le NISP fait, après il a une certaine méthode de prise de données, il fait d'abord une image qu'on appelle une image spectroscopique. Au cours de cette image, justement, en passant à travers un instrument, les couleurs des galaxies vont être dispersées sur l'instrument pour obtenir le spectre et pour pouvoir mesurer le redshift des galaxies. Une durée d'exposition en image spectroscopique, ça dure à peu près 500 secondes. Et après, ces images sont suivies par trois expositions qu'on appelle des expositions photométriques, où cette fois-ci, on fait une image du ciel, comme vous feriez une image avec votre appareil photo, mais dans des bandes de couleurs spécifiques. Donc ça représente une exposition de 500 secondes suivie à peu près de 3 expositions à 100 secondes. Donc ça nous fait quelque chose comme 800 secondes d'exposition. Ces 800 secondes d'exposition, on couvre la surface de la Lune dans le ciel. Et donc on multiplie ça à peu près par 10, ça fait 10 fois la taille de la Lune. Et là, on va pouvoir mesurer un très grand nombre de galaxies, sachant que dans la surface, une fois la surface de la Lune, on a déjà plusieurs milliers de galaxies.
Au sein donc de ce satellite Euclide, il y a deux instruments, donc le NIS dont on parle et le VIS, donc un imageur visible. Un grand appareil photo doté d'une série de 32 capteurs de photons de lumière et 159 millions de pixels. Donc le VIS va acquérir de manière extrêmement précise la forme de milliards de galaxies. Donc le NISP et le VIS, William, travaillent ensemble.
Alors le NISP et le VIS travaillent ensemble, mais on va dire chacun font leurs observations de façon plus ou moins indépendante. Parce que les objectifs scientifiques de l'instrument VIS et de l'instrument NISP ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, ils ont chacun besoin l'un de l'autre pour pouvoir faire la science qu'on veut faire de façon précise. Donc ils regardent tous les deux le même champ du ciel, sauf qu'il y en a un, le VIS, qui observe dans le domaine des longueurs d'onde visibles, donc c'est la couleur à laquelle vos yeux sont sensibles. Et on a l'instrument NISP qui lui travaille en infrarouge, et lui va essayer de mesurer lui plutôt la distance et faire une carte des galaxies, mesurer le redshift des galaxies, alors que le VIS lui s'intéresse plutôt à la forme des galaxies, et lui ne sera par contre pas capable de mesurer la distance ou le redshift des galaxies, il aura besoin du VIS. Du NISP pour faire cette mesure.
Quels sont les défis les plus complexes à relever donc, dans la fabrication du NISP ?
Pour moi, en tant que calibration scientist, l'aspect le plus compliqué, le défi qu'il y a à relever, c'est la calibration de cet instrument une fois qu'il sera dans l'espace. Donc on a d'habitude, quand on a un instrument scientifique, et notamment un spectrographe, on embarque une source de calibration qui est bien connue, qui émet une certaine couleur à certaines longueurs d'onde, donc qui est bien connue. Elle est embarquée dans l'instrument et elle est utilisée pour faire la calibration de l'instrument une fois qu'il est dans l'espace. L'instrument NISP n'emporte pas à bord une telle source de calibration. Donc il faut se baser sur des galaxies, des étoiles ou des objets astrophysiques qui sont bien connus. Et maintenant on a un autre problème, c'est que dans l'infrarouge, il n'y a pas énormément de ces objets qui sont bien connus. Parce qu'il y a eu très très peu de missions spatiales dédiées en infrarouge qui ont permis d'observer très précisément ce type d'objet qui pourrait être utile pour la calibration. Alors on ne peut pas faire ces observations au sol parce qu'il y a l'atmosphère qui empêche les infrarouges de pénétrer l'atmosphère et d'être observés au niveau du sol. Donc oui, l'un des gros défis de l'instrument, c'est d'arriver à le calibrer avec le bon niveau de précision, une fois qu'il sera dans l'espace, pour pouvoir faire la science qu'on veut faire. Parce que si on se trompe sur la calibration, on fera de la mauvaise science et la mission ne servira à rien.
Et alors comment vous y prenez-vous pour essayer de calibrer l'instrument depuis la Terre?
Alors comme on n'a pas de source à bord pour faire cette calibration, on se base beaucoup sur des mesures qu'on fait au sol. Donc on passe énormément de temps avec l'instrument à faire des tests au sol pour connaître justement ce qu'on appelle la réponse de l'instrument. Donc c'est comment cet instrument va transformer la lumière en signe électrique, comment il va transformer la lumière, il va disperser la lumière dans ses différentes couleurs. Donc c'est des mesures qu'on fait au sol. Et comme l'instrument, il a une structure assez particulière, donc ce silicone carbonite qui est relativement stable et qui varie très peu en fonction de la température. Une fois qu'on l'aura mis dans l'espace, on s'attend à ce que la réponse de l'instrument ne bouge pas énormément par rapport à ce qu'on aura mesuré au sol. Et on fera juste essentiellement au niveau du vol une vérification de la calibration et de l'étalonnage qu'on aura fait au sol. Et il faut aussi préciser qu'au sol, cette calibration se fait dans des conditions qui sont similaires à ce qui ira en vol, c'est-à-dire en conditions de pression et en conditions de température similaires aux conditions qu'on aura dans l'espace avec l'observatoire.
Vous allez tester le NISP, le calibrer, vous construisez différents modèles. Donc on va parler un peu de tous ces modèles. On peut commencer donc par le modèle thermique qui donc va essayer de reproduire donc vraiment l'environnement du satellite dans l'espace, puisque qu'une fois que l'instrument sera dans l'espace, il sera dans le vide. Et donc il faut arriver à mettre l'instrument dans cette grosse cocotte minute à l'intérieur de laquelle on va pomper l'air, et donc à la bonne température aussi.
Cet instrument NISP, il va être envoyé dans l'espace. Une fois qu'il sera dans l'espace, il sera un peu, on va dire, livré à lui-même. Donc on n'a pas le droit à l'erreur sur l'instrument qu'on va construire au final et l'instrument qu'on va envoyer dans l'espace. On doit vérifier donc l'instrument NISP, quand il sera dans l'espace, il travaillera à basse température. On doit s'assurer que les échanges thermiques entre les différents composants qui composent cet instrument ne viennent pas perturber la science. On doit s'assurer aussi qu'au niveau structurel et mécanique, l'instrument ne casse pas au moment du décollage ou pendant toute autre opération en vol. Donc ça nous amène à construire différents types de modèles. Et donc l'un des premiers modèles qui est réalisé pour valider justement la conception de l'instrument qui, jusqu'à maintenant, est faite uniquement sur le papier, par des modèles papier, modèles informatiques et modèles théoriques. On doit valider cette conception, donc on commence par un modèle structurel et thermique de l'instrument. Donc c'est une maquette à taille réelle qui comporte plus ou moins les mêmes composants, les mêmes matériaux que le modèle final, et on le met dans des conditions qui sont similaires à celles qu'il va y avoir au vol, donc basse température. On vérifie que les échanges thermiques entre les différents composants se font correctement, et on fait aussi vibrer ce modèle sur un pont vibrant avec des modes de vibration qui sont semblables à, enfin, qui sont exactement les mêmes que celui qu'il va subir au moment du décollage, pour s'assurer justement qu'il ne casse pas au décollage. Le NISP ne va pas être isolé quand il sera dans l'espace. Il y aura un satellite qui va avoir une communication électrique avec la Terre. Il va y avoir un autre instrument qui s'appelle le VIS qui va avoir sa propre électronique de bord. Donc on a des pixels qui sont très très proches les uns des autres, chaque pixel a sa propre électronique, et c'est un peu comme si chacune de ces électroniques chuchotait un petit peu, et celle d'à côté, elle écoutait un peu ce que chaque électronique disait. Ben là c'est pareil, on a deux instruments, le satellite qui a sa propre électronique, et tout ça qui doit être ensemble. Donc chaque électronique va avoir tendance à rayonner des ondes électromagnétiques qui peuvent venir perturber le NISP, ou le NISP qui peut venir perturber le VIS, ou le satellite qui peut perturber les instruments. Il va y avoir sur les câbles électriques, il peut y avoir aussi des fuites du VIS vers le NISP ou vice versa. Et donc on doit s'assurer justement que l'instrument NISP, il est peu sensible à ces fuites-là. On sait qu'il va y avoir des fuites, on doit juste vérifier que le NISP il n'est pas perturbé par ces fuites. Donc on doit vérifier ça au sol. Maintenant, la difficulté de vérifier ça au sol, c'est que au sol, on n'a pas que le NISP, le VIS et le satellite, on a tout le réseau électrique d'un laboratoire. Et donc il faut arriver à isoler justement l'instrument NISP de ce réseau électrique du laboratoire. Et ça, c'est quand on est sur Terre, c'est pas une chose qui est aisée à faire, parce que quel que soit le câble qu'on va brancher, il sera forcément sur un réseau électrique qui peut venir perturber les mesures. Et donc là, c'est c'est concevoir un schéma électrique bien particulier, avec des composants bien particuliers, pour essayer d'isoler le plus possible l'instrument de ces perturbations électriques.
C'est un défi que vous êtes sûr de relever?
Alors on l'a déjà relevé, puisque les tests ont été réalisés en avril et répétés en juillet l'année dernière. Donc ils ont été, ça a été des tests qui ont été un gros succès, on va dire. Donc ils ont été faits deux fois, justement, parce que la première fois, on avait des soucis sur l'isolation de l'instrument. Donc on a retravaillé notre schéma d'isolation de l'instrument pour refaire ces tests en juillet. Et ils ont été un véritable succès. Donc l'instrument, on a pu montrer avec ces tests que l'instrument était très 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 peu sensible à des perturbations électromagnétiques.
Et donc parmi tous ces tests et ces modélisations, vous réalisez également un modèle mécanique du NISP pour vous assurer que le satellite va tenir donc dans une fusée qui va vibrer au décollage.
Je reviens dessus parce que j'en ai déjà un peu parlé, oui, tout à l'heure quand on faisait. En fait, c'est jamais un modèle mécanique qu'on fait, c'est un modèle thermo-mécanique. Quand on fait le modèle thermique, on utilise des composants qui réagissent à la température exactement pareil que l'instrument. Donc en général, on utilise exactement les mêmes matériaux que ce qui va composer le modèle de vol final. Parce que si on change un petit peu la structure, on va changer tous ces échanges thermiques. Donc on utilise les mêmes matériaux, la même structure, donc on a notre modèle thermo-mécanique. Et effectivement, ce modèle thermo-mécanique, il est passé sur ce qu'on appelle des ponts vibrants, justement pour reproduire des différents types de vibrations qu'on va avoir au vol. Mais il faut voir aussi que on n'a pas que un modèle thermomécanique du NISP, on a plein de sous-modèles. Donc par exemple, on a le NISP, il se compose de plusieurs éléments. Donc on a la structure mécanique du NISP, on a à l'intérieur du NISP, on a deux roues mécaniques qui vont supporter des filtres et des optiques de dispersion de la lumière, donc qui vont séparer les couleurs de la lumière. On a un plan de détection qui est sur sa propre mécanique, donc on va tester chacun de ces sous-éléments de façon individuelle, thermomécaniquement. Une fois qu'on les a testés et validés de façon individuelle, on va les assembler tous ensemble pour construire ce modèle thermomécanique de l'instrument, pour après, cette fois-ci, tester le modèle de l'instrument dans l'ensemble. Au niveau du NISP, on a des mouvements mécaniques qui, entre chaque exposition, on va venir placer un certain type de filtre devant les détecteurs pour observer le ciel dans une certaine gamme de couleurs ou faire de la spectroscopie. Donc ces mouvements mécaniques, ils apportent un certain délai aux observations. Donc l'une des premières étapes que ces tests qu'on va réaliser la semaine prochaine vont permettre, c'est de valider les opérations de l'instrument. C'est-à-dire que l'instrument tient ses temps limites dans ses mesures, dans ses acquisitions, dans ses traitements de données. La deuxième grosse étape de ces tests sol, c'est tout ce qui est validation optique de l'instrument. Donc jusqu'à maintenant, on a fait des tests thermomécaniques, des tests électriques pour valider les contaminations électromagnétiques, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait des tests optiques de l'instrument. On connaît les optiques de façon au niveau sous-système individuellement, mais on n'a jamais fait des tests optiques de l'instrument, et c'est justement ces tests-là qui vont nous dire si on a bien fait notre travail, on a un instrument qui voit bien, ou si on a un instrument qui est myope.
Au niveau du codage informatique, vous réalisez aussi de nombreux tests.
En tout cas, c'est le but. Donc, notamment, en fait, il y a toute une partie modèle informatique qui va venir en fait en partie des résultats de ces tests et de leur analyse. Et après, dans le reste de l'analyse et de la chaîne de calcul Euclide, il y a toute une méthodologie justement pour pouvoir simuler l'instrument. Simuler un instrument qui fabrique des images qui ressemblent à celles du vrai instrument et de pouvoir tester à chaque étape de l'analyse qu'on fait, quasiment à chaque sous-calcul, vérifier qu'on a bien retrouvé la bonne valeur et ce jusqu'au bout même quitte à réaliser une simulation complète de l'observation de tout le ciel et vérifier qu'on retrouve bien, par exemple, la cosmologie qu'on a simulée. Quoi. C'est, ultimement, c'est ce qu'on pourrait faire.
Donc l'un des tests qu'on va faire, qui est très important la semaine prochaine, c'est ce qu'on appelle la mesure de la distance focale de l'instrument NISP. Donc en gros, quand on met une lentille comme une loupe, on a une grandeur qu'on appelle la distance focale, qui nous permet de calculer où l'image d'un objet va se former. Et ce qui nous permet ensuite de placer nos détecteurs dans le plan image de la lentille pour pouvoir faire une photographie de l'image d'un objet qu'on a en face de notre lentille. Donc l'un des gros tests importants qu'on va faire, là, c'est ce qu'on appelle la mesure justement de la distance focale de l'instrument NISP. Parce qu'une fois qu'on sera dans le satellite, on va placer l'instrument VIS par rapport au miroir du télescope. On va focaliser le miroir du télescope sur l'instrument VIS. L'instrument VIS, lui, ce qu'on veut, c'est qu'il ait une très bonne mesure, une très haute qualité d'image. Donc on va placer le miroir par rapport à l'instrument VIS à une certaine distance pour optimiser et avoir la meilleure image possible. À côté de ça, il va falloir qu'on mette l'instrument NISP à la bonne position pour que lui aussi il ait une qualité de l'image qui soit optimale. Et donc pour ça, on va faire des mesures qui vont nous permettre de déterminer à quelle position je dois placer le NISP par rapport au VIS pour que les deux instruments aient une image nette. Si on rate ce test, c'est comme si on avait par exemple deux yeux, un œil myope et un œil qui voyait bien, donc le VIS qui verrait très bien et l'instrument NISP qui serait myope. Donc ça, c'est vraiment un test qui est très important pour la suite. Donc une fois qu'on aura fini tous ces tests, en partie tous ces tests qu'on va faire sur l'instrument NISP, on va livrer l'instrument NISP alors je sais pas, c'est un peu technique là, je pense qu'on le livre à l'ESA qui ensuite va le relivrer à Airbus. Donc la date de livraison très précise, c'est le 7 février. On livre l'instrument NISP.
Et comment ensuite, va-t-il être livré?
En fait, on va jouer un peu aux poupées russes avec l'instrument NISP. On va mettre l'instrument NISP dans une caisse qui est propre, donc c'est-à-dire qui ne doit pas avoir trop de poussière, qui n'a pas de contamination moléculaire ou de contamination de poussière. Ensuite, on veut éviter que pendant le transport, le NISP il vibre trop, donc on va le mettre dans, je pense que c'est plusieurs caisses. Dont le rôle est justement d'absorber au maximum les différents chocs qui vont éviter le transport. Et tout ça, bien sûr, ça doit être toujours propre, parce que quand on va déballer chacune de ces caisses, on ne veut pas venir contaminer et rajouter de la poussière sur l'instrument NISP. Donc voilà, donc l'instrument NISP, il est mis dans... On fait des poupées russes dans plusieurs caisses, les unes dans les autres. On met ça dans un camion et c'est envoyé à Airbus. Ensuite, au niveau des tests Airbus, on va continuer les tests sur l'instrument avec Airbus. Donc il faut savoir, si je remets un peu dans le contexte, les tests qu'on fait au laboratoire d'astrophysique de Marseille sur l'instrument NISP sont des tests uniquement sur l'instrument NISP. Ici, on ne teste pas l'instrument VIS, et encore moins, on n'a pas un élément qui nous manque dans ces tests, c'est l'ensemble des optiques qu'il va y avoir dans le satellite. Donc un satellite et un observatoire comme Euclide, c'est un miroir primaire qui fait à peu près 1 mètre de diamètre, avec un miroir secondaire qui envoie la lumière sur plusieurs chemins optiques. Donc on a plusieurs miroirs secondaires en fait. On a un élément qu'on appelle un dichroïque, c'est un filtre assez particulier qui va réfléchir la lumière visible sur l'instrument VIS et qui va laisser passer au travers lui la lumière infrarouge, pour envoyer la lumière infrarouge sur l'instrument NISP. Toute cette optique-là, on ne va pas la tester avec l'instrument NISP au laboratoire d'astrophysique de Marseille. C'est Airbus qui est responsable de la fabrication de ces optiques, et il va falloir au bout d'un moment tester la qualité et valider la qualité optique de ces optiques. Donc c'est une fois qu'on aura livré l'instrument NISP à Airbus, Airbus va intégrer, donc c'est-à-dire il va monter l'instrument NISP sur la structure mécanique qui va supporter le NISP et le VIS et l'ensemble des optiques. Et une fois que ça se sera intégré, on va tester sur la qualité optique avec l'instrument et vérifier qu'on ne dégrade pas justement la qualité optique de l'instrument avec les miroirs conçus par Airbus. Donc ensuite, il faut l'envoyer en Italie. Donc c'est Thales, une filiale de Thales, Alien Space, en Italie, qui va faire l'intégration sur le satellite. Et donc là, c'est pareil, c'est intégration mécanique, intégration électronique, parce qu'il va falloir brancher les électroniques des différents instruments sur l'électronique du satellite. Et après, au niveau des dates, ça prend c'est ça, à peu près un an, deux ans, pour ensuite envoyer le satellite à Kourou, d'où il sera lancé à partir d'une... Jusqu'à maintenant, c'est une fusée de type Soyouz.
D'accord, donc en 2022.
2022, juin 2022.
Merci beaucoup, William.
Merci de nous avoir accueillis aussi.
Merci, Julien.
Merci à toi.
Quand j'étais petit, je passais mes étés dans la Drôme et je m'allongeais dehors. Je regardais la voûte céleste. Et j'avais une sensation de vertige. Tomber dans la voûte céleste.
Essaye de peser l'univers.
Le métier à tisser l'univers.
On est tout et rien dans l'univers. On est la chose la plus avancée que l'on connaisse de l'univers, dans quelque chose qui nous dépasse complètement.
Comme